France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Il y eut les années anglaises, il y eut l'arrivée à Hollywood, il y eut les années d'or, il y eut l'osmose parfaite entre un cinéaste et un compositeur, le cinéaste étant Alfred Hitchcock, le compositeur Bernard Herrmann, compositeur de Psychose, de L'amour aux trousses, de Vertigo, des oiseaux. Après, il y eut, par définition, l'après Bernard Herrmann et les dernières années des créations hitchcockiennes. D'où le dernier épisode d'une série de 5 euphonias, diffusée pour la première fois sur France Culture en février 1992.
Euphonia.
Hitchcock et ses musiques, 5e et dernière émission, l'après Herrmann, avec Georges Schneider. Musique de Bernard Herrmann, composée pour le générique du rideau déchiré Tante Curtine et non utilisée. L'après Herrmann. Pourquoi l'après Herrmann? Bon, il faut bien dire qu'après la collaboration Herrmann-Hitchcock, qui a duré sur beaucoup de films, après Marnie, lorsque Hitchcock prépare le rideau déchiré, Herrmann doit faire la musique. Et quelque chose se passe entre eux qui fait que la musique composée par Herrmann ne sera pas utilisée. À la place, il y aura celle de John Addison. Je me souviens avoir rencontré Bernard Herrmann à un moment de la sortie de La mariée était en noir, dont il a fait la musique, le film de Truffaut, car il a collaboré deux fois avec Truffaut, Fahrenheit 451 et dans La mariée était en noir. Et j'avais essayé de d'un peu savoir ce qui s'était passé. Et Herrmann était extrêmement violent vis-à-vis d'Hitchcock, trop violent pour que ce soit normal, alors que Hitchcock n'a jamais rien déclaré là-dessus. Apparemment, simplement, je crois, par des sources différentes, que Hitchcock n'aimait pas la musique que proposait Herrmann à ce moment-là, qu'il avait toujours laissé libre, et qu'il avait demandé de faire des changements et tout, et Herrmann n'avait pas voulu, et ils se sont brouillés. Par la suite, Herrmann, on le sait, a beaucoup travaillé avec De Palma, qui, imitant un peu Hitchcock, ça tombait bien, et a fini sa carrière sur une musique admirable qui est celle de Taxi Driver de Martin Scorsese. Cependant, sur Hitchcock, il faut aussi signaler que, comme nous l'avons dit dans une session précédente, avec Jean Doucet, Bernard Eisenschicht et Jean Collet, il avait donc expérimenté complètement divers éléments, musique, son, voix, silence, redondance, contrepoint et tout. Et n'ayant plus Bernard Herrmann, il va retomber dans de nouvelles expérimentations un peu différentes et liées à ces pulsions du moment. D'abord, refaire un film d'espionnage, mais alors ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, Est-Ouest, ce qui n'était pas du tout son problème, de cette manière-là. Ça existait bien sûr dans les 39 marches en Angleterre et tout. Mais bon, entre-temps, c'était plutôt des films nazis ou beaucoup plus abstraits, alors que là, c'est vraiment, ça se passe en Main de l'Est, c'est un savant qui veut passer, enfin, peu importe l'histoire. Et se poser des questions également sur est-ce que la musique, comme disait quelqu'un qui écrit des poèmes dans le nord de la France, Madame Lance, est-ce que la musique est image ou pas? Et en fait, elle est image vraiment avec Bernard Herrmann, vu qu'elle fait autant partie de l'image que l'image. Ici, ça sera un peu différent. Et j'ai pensé, en faisant venir Georges Schneider, qui est un spécialiste de musique et de cinéma, que pour commencer le dialogue entre lui et moi, la meilleure méthode était peut-être de passer la musique qu'avait écrite pour la séquence dite du bus du rideau déchiré, séquence que je vais expliquer dans quelques secondes, ce qui était prévu chez Bernard Herrmann, et ensuite cette même séquence avec la musique d'Addison tirée du film. Alors là, c'est en version française, car les archives de l'INA n'avaient que cette chose à notre disposition. Et qu'est-ce que raconte cette séquence avant, parce qu'on va l'entendre en français. C'est bon, un espion qui est un savant, qui est venu comme espion en Allemagne de l'Est pour voler une formule à un autre savant, en faisant croire que lui voulait collaborer avec les communistes, s'enfuit grâce à l'association dans un bus, et ce bus, en fait, est un faux bus de la ligne normale qui va les conduire dans les faubourgs de Berlin. Parce qu'en fait, l'idée de Hitchcock, c'est de faire qu'il y ait donc le vrai bus et le faux bus, mais que le vrai bus peu à peu rattrape le faux bus et crée un danger de suspense de plus en plus fort. D'où l'utilisation de la musique. On remarquera aussi, on en parlera tout à l'heure, que quand Addison se met à travailler avec Hitchcock, il sait ce qu'aime Hitchcock, et il fait peut-être une musique par moments plus Bernard Herrmannienne, entre guillemets, que ne l'aurait attendu Hitchcock. Donc ça fonctionne encore sur le passé avec Herrmann, ce qui va disparaître peu à peu. Alors donc d'abord, quelques minutes de la musique que Bernard Herrmann avait composée pour la séquence du bus du rideau déchiré Tante Curtun, suivie de 12 minutes de la séquence, disons, du bus en version française, avec la musique d'Addison telle qu'elle est sortie dans les salles. Thank you.
Jacobi.
Sind wir denn so spät dran?
So, wir bringen die Zeit wieder ein.
Elle est inquiète parce que vous êtes en retard. Écoutez, on m'a parlé d'une organisation, mais vous voulez dire que le bus, l'autobus en fait partie? Oh, ce n'est pas le régulier, bien sûr. Il appartient à notre organisation, mais nous prenons la même route que le régulier, Leipzig à Berlin, oui. Mais nous partons 10 minutes avant.
Vous n'êtes pas allemand. Wie gut, wer sind diese Leute?
Peu vous importe, ce sont de nos amis.
Polizei. Polizei.
La police, maintenant. On n'a jamais vu de policier avant. 20 fois nous avons fait ce trajet. Herr Jacobi, qu'est-ce qui s'est passé?
Du calme, du calme.
Qui vous voudrez, mais non, pas des Américains. Non, non, non. Ils sont très dangereux pour toute notre entreprise parce que ce ne sont pas seulement des étrangers, mais des étrangers recherchés par la police. Ça nous fait courir à tous un très grand danger. Jamais nous n'avons tant risqué d'être pris. Qui sont toutes ces personnes?
Ce sont tous des amis de notre organisation.
Est-ce qu'ils se sauvent aussi?
Oh non, mademoiselle. Nous ne nous sauvons pas. Nous avons tous des billets d'aller-retour. Nous sommes membres du PI. Nous aidons les autres à gagner Berlin et ensuite nous rentrons chez nous.
Mais n'est-ce pas très dangereux de faire ça?
Pour certains, il est plus dangereux de rester ici.
Hey, Jacobi! Vous avez vos cartes d'identité. Bien, pas un mot.
Vous voyez, ils recherchaient les deux Américains. On peut peut-être encore nous arrêter. Herr Jacobi, qu'arrivera-t-il quand le vrai bus viendra à passer? Que pensera la police alors?
Du calme. Vous avez entendu Heinrich leur dire que c'est un autobus supplémentaire.
Est-ce que ça va?
Oui, très bien.
Elle attendra tranquillement 8 minutes pour le régulier, c'est tout.
On a donc 10 minutes de retard.
Oui, oui, on va les rattraper. De nouveau un barrage. Des bandits, ce sont des déserteurs.
C'est un hold-up?
Oui, ils veulent notre argent. Nos bijoux et nos montres ne les intéressent pas.
Wir wollen nur Geld, keine Juwelen oder Uhren.
Militär, Polizei.
Sie haben andauernd diese Überfälle in der letzten Zeit. Zur Sicherheit lasse ich Sie bis zur Stadt von zwei meiner Leute begleiten.
Das ist wirklich überflüssig.
Das war der einzige Überfall bis jetzt. Macht überhaupt nichts aus. Viel sicherer für alle, wenn Sie eine Begleitung haben.
Die beide fahren besser mit dem Bus zu finden.
Qu'y a-t-il de drôle? Oui, c'est drôle si on veut bien. Mais ça ne l'est peut-être pas du tout. Voyez-vous, les militaires ont décidé de nous donner une escorte.
On croit plutôt qu'on est tous arrêtés.
Oh, fichez-nous la paix. Nous avons une escorte, c'est tout. Ils disent qu'il y a eu un grand nombre d'attaques le long de cette route dernièrement. C'est nous qui faisons courir un danger à tout le monde. Nous pourrions descendre comme des passagers ordinaires.
Que feriez-vous en plein milieu d'une banlieue perdue? Votre prochain contact est dans la ville et nous allons essayer de vous mener dans les faubourgs. Mon seul souci, c'est que maintenant, nous devons nous arrêter comme un bus régulier.
Que voulez-vous dire?
Et comme vous l'avez vu, nous n'avons pas pris de voyageurs. Mais maintenant, nous devons nous arrêter, même si nous ne voulons pas. Les policiers devant le front.
Incroyable.
Si la police passe le second bus passé, on va tous être arrêtés. Laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre. Laissez-moi quitter l'autobus. Laissez-moi.
Roland Mann, si vous le voulez, je vous laisserai descendre du bus. Mais vous ne direz surtout rien à la police. Heinrich, arrêtez. Ouvrez la porte.
Vous allez tous vous faire arrêter. Et vous, j'espère que vous serez pris pour causer à tout le monde autant d'ennui.
Quand nous serons à Berlin, qu'ils vont nous contacter?
Ah! Vous irez au bureau de poste. Friedrichstrasse a demandé un nommé Albert. Je vous donnerai l'adresse. Je crois cette fois qu'on doit stopper.
Dauert doch eine Ewigkeit. Helft ihr doch!
Komm! Lassen Sie mir doch mal Spaß. Ja, was ist denn hier los? Ich doch kurz sagen, was ist hier? Ja, aber sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Ja, was wäre denn hier? Was wird denn hier geschehen?
Mon Dieu, nous n'y arriverons jamais.
Herr Jacobi, es hat die Polizei den zweiten Bus gesehen.
Il dit que la police a vu l'autre autobus. Il faut qu'on descende. Albert!
Los, los, alle los!
Wer wissen Sie, dass das Gen eingesetzt
wird? Guck mal, drängen alle vom Bus weg!
Halt, Polizei! Ich bin Lord Yard, wohin Sie von mir? Ja, bitte!
Bon, alors évidemment, on pourrait gloser longtemps. Ah, Herman, ça aurait été mieux, ça aurait été bon. Il est vrai qu'à partir du moment où ce n'est pas Herman qui fait la musique, Hitchcock sait qui il prend, pourquoi, et il fonctionne avec. Donc, on peut bien sûr parler de comment avec Herman ça aurait pu être, théoriquement, vu le travail fait avant, mais on a aussi à juger avec le travail d'Edison. Et moi, personnellement, je trouve que l'orchestration, je ne parlerai pas de la musique, mais de la séquence, avec tout ce qu'il y a dedans, est assez efficace, George Schneider.
Oui, ce qu'il faut, c'est considérer quel était un peu le cahier des charges de la séquence. Enfin, ce que Hitchcock demandait d'abord dans un premier temps à Herman et ensuite au deuxième musicien Addison. Au fond, c'était une séquence avec un trajet, c'est-à-dire l'autobus doit aller de Leipzig à Berlin, poursuivi par un deuxième bus, et donc avec une idée de côté haletant, enfin de transport vers quelque chose. Et donc, en gros, les deux compositeurs, d'ailleurs, dans les deux extraits qu'on a entendus, tous les deux se sont assez bien coulés dans le moule avec un thème motorique, un thème qui par lui-même et par le rythme, indique l'idée de mouvement. Évidemment, les deux univers sont très différents parce que quand on entend Bernard Herrmann et la musique qu'il avait prévue, on s'inscrit tout de suite dans une suite logique de film qui va de Marnie, Vertigo, La mort aux trousses. On se croit dans La mort aux trousses par certains moments. Et donc, il y avait une espèce de patte sonore imposée par le fait qu'Herrmann avait déjà travaillé et qu'il avait son esthétique propre. Addison, c'est un peu différent parce que c'était une première collaboration et on a un travail qui, en apparence, est un travail plus conventionnel, plus traditionnel quelque part, avec peut-être, et c'est là qu'on en vient à l'apport qui a été celui d'Addison, qui est peut-être plus... C'est toujours difficile de dire ce que ça aurait été avec Herman, mais là, moi j'ai la quasi-certitude que tout ce qui est environnement sonore, et qui fait partie de la bande son d'un film, le bruit des pneus, le cliquettement des armes, le bruit des pièces de monnaie dans les porte-monnaies, les coups de feu, les moteurs, les pas, la fuite à la fin, etc., qui est complètement incorporée dans la bande son, a peut-être plus d'importance qu'elle n'en aurait eu si ça avait été la musique d'Herman.
C'est ce qu'on peut remarquer par rapport aux autres émissions qu'on a fait précédemment, c'est qu'avec Herman, il est arrivé même un moment dans leur collaboration, je pense à L'amour aux trousses, où on n'entendait que la musique. On n'entendait plus les bruits, tout ça, alors qu'il y tenait beaucoup avant une chose. Et la musique n'était plus réaliste, c'est-à-dire que c'était plus une musique avec une source de données. Et qu'ici, il revient un peu à ses recherches avec Tiomkin, il refait de l'expérimental à ce niveau-là, et en effet, il sait qu'il a d'abord un acteur difficile qu'est Paul Newman. Là, on a entendu en version française, on ne peut pas juger totalement, mais il sait que le jeu est jeu à la méthode et tout, compliqué. Il sait qu'il a une actrice qui n'est pas une actrice hitchcockienne au départ pour jouer le rôle de la fille, qui est Julie Andrews. Il connaît toutes ces difficultés. Il sait qu'il tourne également en Europe, une partie des séquences, avec un sujet difficile, ambigu, parce qu'il y a encore l'anticommunisme, en 65-66, ça n'est pas ce que c'était au moment du mur de Berlin. Et alors, son système est toujours là, sa théorie est toujours là, simplement en effet, l'efficacité d'abord, et disons, le côté toujours, mouvement répétitif, la spirale, tout cela, mais là, donné dans un lieu d'univers clos. Je voudrais juste te dire une chose avant que vous continuiez votre analyse, Georges Schneider, c'est que dans les images qu'on n'a pas entendues, bien sûr, et ce qui est capital, c'est que tout est vu du bus. C'est-à-dire qu'on est dans le bus, on voit les choses par la fenêtre du bus. Il a joué à la théâtralisation du lieu à tout prix. On revient à sa grande idée, l'homme qui en savait trop et tout. Et dans cette relation, cette musique, en fait, est complètement... C'est peut-être la première fois qu'il essaye ça. Ça n'est plus la musique que le spectateur se fait dans sa tête et dans sa respiration, comme avec Herman, où l'écran et le son sont le spectateur, en fait, c'est une musique subjective de ce qu'il y a dans les personnages. C'est le halètement, la peur et tout des personnages dans le bus, et non plus celle du spectateur. Bien sûr, ça devient celle du spectateur, mais elle n'est pas a priori ça, ce que c'était le cas avec Herman.
Oui, je pense qu'on a affaire, de ce point de vue-là, à une musique qui est plus fonctionnelle, au sens propre, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, elle est considérée comme un élément, mais comme après tout, les costumes que Hitchcock a choisi pour les figurants et les personnages qui sont dans l'autobus, comme les couleurs, comme le cadre, comme la musique est vraiment conçue comme un des éléments de la réalisation filmique, proprement dite. Ce qu'on peut rajouter, c'est que pour essayer de caractériser un peu les deux univers, parce que la musique de film a toujours cette caractéristique qu'elle s'inscrit complètement dans ce qu'on appelle la musique savante, la musique dite classique, composée, écrite par des compositeurs, souvent avec retard, ce qui est bien normal d'ailleurs. On est plus dans un univers que je qualifierais de wagnérien dans ce qu'on a entendu chez Bernard Herrmann. On est très très clairement et même thématiquement dans le Crépuscule des dieux de Wagner, avec les motifs de Hagen qui est presque cité note pour note par Bernard Herrmann, alors qu'on serait plutôt du côté de chez Paul Dukas, avec rythmiquement exactement la même structure que celle de l'apprenti sorcier, puisque c'est pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ça, c'est ni plus ni moins que l'apprenti sorcier de Paul Dukas. L'instrumentation qu'il a choisie, que choisi Addison, est très intéressante aussi, parce qu'elle fait une place au saxophone, qui est un instrument à la couleur un peu ironique, un peu décalé par rapport à...
On pourrait même dire un peu cabaret,
oui, c'est allemand, un peu parodique, hein, ouais. Côté un peu parodique. Et puis très vite, à peu près dans les deux tiers de la séquence qu'on a entendue, le saxophone disparaît pour que le thème soit confié à tout l'orchestre. Et évidemment, il y a toujours un côté lieu commun dans la musique de film, et moi je ne condamne pas, au contraire, je pense que c'est nécessaire. Moi je crois qu'une bonne musique de film n'est pas nécessairement une bonne musique. Ça, on pourra argumenter tout à l'heure. C'est-à-dire, quand j'entends « n'est pas nécessairement une bonne musique », qu'on pourrait entendre au concert, chez soi, sous forme de disque, c'est pas du tout le propos. Je dirais même qu'une musique que l'on pourrait entendre au concert ou au disque offrait une mauvaise musique de film, en renversant la proposition. Donc, c'est vrai qu'elle s'autoplagie, qu'elle s'inscrit dans un... Et alors, bon, y a parmi les poncifs, dans la musique d'Addison, c'est la percussion. Évidemment, il n'y a rien de plus haletant, il n'y a rien de plus suspense que des notes, des coups de timbales, rythmés, qui s'accélèrent, qui se ralentissent, un blanc, ça donne immédiatement une idée au spectateur. Inconsciente d'attente et de suspense.
Justement, c'est une des choses qui disparaissait pas mal avec Herrmann, ça. Le côté Wagner, de toute façon, c'était logique que Herrmann et Hitchcock s'entendent, parce que dès ses premiers films, Wagner a eu de l'importance. La séquence qu'on a fait écouter lundi, de Murder, où le Tristan et Iseut est joué pendant que Herbert Marshall parle et tout. Et là, justement, j'ai l'impression, moi, en vous écoutant et en réécoutant, c'est que Herrmann est arrivé à un moment de sa carrière aussi où il était devenu, par le fait des succès des films d'Hitchcock, une superstar de la musique de films, mais non plus comme l'avait été Max Steiner ou l'était Tiomkin sur les mélodies et tout, sur les suites qu'il composait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ça en vente en France, véritablement, mais il était paru dans les années 60 et 60, début 70, quand vraiment la gloriole était très très forte sur la musique de film, des suites musicales. C'est que Herrmann avait réécrit la suite de Vertigo, la suite du Fou coupable, la suite de Marnie, la suite de L'amour aux trousses, et c'était quelque chose qui était fait pour le concert. Et on a l'impression que Hitchcock, revenant un peu à ses premières amours du film d'espionnage type Les 39 marches, avec un espion comme ça et tout, et retournant en Allemagne, où il a commencé sa carrière comme assistant, n'oublions jamais ça, dans les années 20, il veut pas d'une musique comme ça. Et il n'en veut pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il veut une musique... Moi, je pense souvent, en écoutant la musique de Addison, à la partition sonore qu'on avait écrite au moment de la ressortie des films de l'expressionnisme allemand dans les années 60, pour l'on m'abuse. C'est le même type de musique, un peu entre le cabaret et la musique, disons, des années... vous parliez de Paul Dukas, moi, je dirais plutôt, disons... pas la musique de l'école de Vienne, celle qui était parallèle à la musique de Vienne à la même époque, qui était un petit peu post-romantique avec des autres éléments. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, bien sûr, on peut pas passer la séquence, mais dans le film, il y a un moment capital où il y a une musique de ballet qui est donnée, que je crois que le Lac des Cygnes, j'ai bonne mémoire, dans laquelle ils sont dans une salle de spectacle, comme dans L'homme qui en savait trop et tout cela, et que la personne qui danse va les reconnaître sur cette musique, qui continuera, et pour s'en sortir, Newman verra qu'il y a une espèce de faux feu en papier, qui ira au feu, et il y aura la panique qui arrêtera la musique. Et peut-être que l'idée d'une musique de type symphonique extrêmement composée et travaillée et très personnelle de Herrmann le gênait par rapport à cette, j'allais dire un mot compliqué, dichotomie, mais enfin cette différence qu'il voulait entre la musique dans la tête des personnages et dans le truc. En plus, c'est un physicien, le personnage principal. Et c'est drôle parce que toute cette séquence, elle est dans la tête de Paul Newman qui pense. Le seul moment où il y a un rapport d'une autre musique qui arrive au violon, si vous vous souvenez, un thème mélodique, c'est le thème de la femme qui est là. Bon, quel thème amoureux. Et il revient très souvent, qu'il avait abandonné ça depuis longtemps, au thème selon les personnages, qui est un vieux truc hollywoodien. Il revient avec ça aussi là. C'est-à-dire que je crois que c'est un choix très volontaire. Il veut remettre à plat ce qu'il a trouvé. Herrmann le dérange à ce moment-là. Herrmann est devenu une part de lui-même. Mais vous avez dit une chose juste, c'est que c'est une musique qui est faite pour la mise en scène. Et c'est pas une musique de la mise en scène comme c'était chez Herrmann. Herrmann faisait autant partie de la mise en scène que le reste. à part égale. Il était en liaison. Alors que là, la musique vient comme un des matériaux de la mise en scène d'Hitchcock et non pas comme l'osmose, enfin la collaboration absolue. Je crois que c'est ça qui est important. Mmh. Et curieusement, juste après, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue dans l'espionnage avec les films plus modernes. Et là, il y a, à mon avis, alors là, Dieu sait qu'il y a des musiques de M. Maurice Jarre que je trouve admirables, aussi bien celle d'accompagnement du théâtre au TNP que la musique de Tous les dangers de Vire, que certains films de David Lean. Mais là, c'est vrai que le Maurice Jarre, travaillant sur Topaz, Leto, film où la France avait une participation, donc Jarre a été pris parce que le plus célèbre musicien français Hollywood du moment et tout, il est évident que là, elle laisse un peu sur sa faim. Et elle laisse également sur sa faim monsieur Hitchcock, vu qu'il utilise très peu la musique donnée. Oui. Et le court passage qu'on va entendre verra que de nouveau, il revient à une autre chose qu'il excitait, qu'il avait commencé un peu avec Les Oiseaux, mais avec des musiques électroniques et tout, c'est que le bruit peut être plus intéressant qu'une certaine musique additionnelle. Et c'est l'extrait de Topaz qu'on va entendre maintenant.
Cette fleur, je dois continuer à appliquer les mêmes coloris.
Oui, oui, continue.
Quand j'entends ça, je me souviens d'une phrase du Mépris de Jean-Luc Godard où Fritz Lang, que nous admirons l'un et l'autre, Georges Schneider, dit « Moi, le producteur, je m'en passe très bien ». Et là, j'ai l'impression que quand on entend ce début extrêmement lourd de musique, vraiment redondant, pesant, et qui coque le sait, bon, brusquement, il y a la sonnerie et on n'entend que des bruits. Et que c'est là qu'il y a la vraie musique, d'ailleurs de dire « Moi, le musicien, je m'en passe très bien ».
Oui, c'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser vraiment au son, à ce qu'on entend, parce que là, on n'a pas le secours de l'image, que lorsque la musique s'arrête. Enfin, c'est quand même un paradoxe. Non, on est tout à fait dans ce que l'on peut qualifié comme étant la musique de film lambda, enfin c'est-à-dire que longtemps et trop souvent d'ailleurs la musique elle passe souvent le partenaire sacrifié. C'est tout juste si on a l'impression que les producteurs se réveillent au dernier moment une fois le film monté en disant ah zut bon sang on a oublié la musique et on fait venir quelqu'un. C'est exactement l'impression qu'on a. Je veux faire de procès d'intention à personne. Monsieur Jarre est un musicien très respectable. Vous avez cité son travail avec David Lean qui est tout à fait concomitant du film. Enfin on peut pas imaginer Laurence d'Arabie sans la musique qui le sous-tend. Simplement, j'ai l'impression que là, pour parler un peu trivialement, il s'est pas foulé. Enfin, ce qu'on a entendu au début, c'est un...
Je vous interromps, mais je crois que Hitchcock lui a pas demandé de se fouler non plus.
C'est
parce
ça.
Hitchcock était quand même producteur de ses films. Vous savez, je crois, moi, c'est un peu la déduction que j'ai, mais ça, on ne sait pas. Il faudrait demander à Maurice Jarre. D'ailleurs, peut-être que lui a été très content de ce travail. Je crois que après l'expérience, Herman ne va pas, Addison, il s'en arrange, et il se met à chercher. Il va changer de musicien tout le temps à la fin de sa carrière. Là, il a Jarre. Bon, il fait faire à Jarre ce que Jarre sait faire bien, d'ailleurs. d'ailleurs, c'est pas une musique à haïr. Bon, simplement, il va utiliser le cliché. Il va demander à Jarre de faire du cliché, selon le film à la James Bond ou à la suspense et tout, mais pas Hitchcock, à la suspense, j'allais dire, de Gilles Thompson ou d'un genre comme ça. Et il sait très bien quand il va s'en tirer. Et alors là, on va être beaucoup plus long pour commenter l'extrait suivant, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, bon, après, il retourne en Angleterre, ce qui est important, il est anglais, et il fait Frenzy, qui est un retour au style anglais dans la mise en scène, dans tout. Et dans Frenzy, il y a une séquence qui est la plus belle séquence de suspense de toute l'œuvre d'Hitchcock après l'exploration Ackerman, qui est, disons-le, un tueur il a tué une femme, il la met dans un sac de pommes de terre, il la met dans un camion pour qu'elle parte, il rentre chez lui, il en entend, il est chez lui, il est détendu et tout, et d'un seul coup, il se rend compte, tout ça est avec une musique et tout ça, il se rend compte qu'il manque son épingle de cravate, et que sans doute, c'est la femme, quand il l'a étranglée, qui lui a pris l'épingle de cravate. Il retourne dans le camion, et le camion démarre. Et là, on a une séquence de suspense où il cherche, dans les sacs de pommes de terre qui tombent, la femme. Il finit par trouver, doit casser les doigts pour récupérer... ça dure 10 minutes, et il y a un suspense fabuleux. Et quand j'ai écouté les yeux fermés cette séquence, je me suis dit, c'est formidable, parce qu'il y a une musique fabuleuse qui n'est fait que de bruit de camion et tout ça, qui est quand même une chose... qui n'était pas nouvelle. Rappelons-nous que Hawks, quand il travaille avec Franz Waxman sur Air Force, à un moment, il lui demande une musique, puis il dit, bon, alors vraiment, la musique va disparaître, et je veux l'équivalent de la musique pendant 10 minutes, des bruits d'avion et de coups de feu, et que ça fait une bande musicale et pas bande-son pour lui. Et là, l'exemple sera intéressant, parce qu'on verra que là, il y a un nouveau tournant chez Hitchcock, où brusquement, il se dit, qu'il va jusqu'au bout de ce principe, ça ne lui suffira pas, vu qu'après, il prendra John Williams, qui est quand même un musicien de beaucoup de grande qualité, pour essayer encore autre chose, qu'on entendra à la fin, en guise de générique de fin, de conclusion. Mais là, cette séquence de Frenzy, qui va paraître peut-être irritante à l'oreille de certains, parce que des bruits de camions et tout, je trouve que c'est expérimental, d'accord, mais c'est d'une justesse et d'une force tout à fait étonnante. Avec l'humour de laisser quand même un peu de musique arriver, c'est le camionneur qui s'y flotte. Alors, on va donc écouter cette séquence de George Teder, et puis après, vous direz votre opinion là-dessus. Moi, j'avoue que c'est une séquence qui me paraît de l'humour noir formidable. Et puis, pour ceux qui aiment les pommes de terre, d'ailleurs, un livre remarquable de Pouy vient de paraître, qui s'appelle La Belle de Fontenay, c'est une séquence magnifique.
Thank you. dieu de merde.
Thank you.
Alors, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que cette séquence, entre autres, est de nuit. Et que quand il est à l'intérieur du camion à chercher, c'est éclairé, on voit, mais enfin, il y a un côté un peu obscur. Et donc, c'est une séquence de 10 minutes qui est complètement faite sur des expérimentations sonores absolument étonnantes. Je dirais simplement, avant que vous commentiez cette séquence, Georges Schneider, c'est que si on veut parler de mixage, je parle une fois que la musique s'arrête, même quand il y a musique, bon, il est évident qu'une séquence pareille, le mixeur, c'est quand le bruit des pommes de terre doit arriver, quand on doit utiliser tel son de camion, tel autre. Il n'y a pas qu'un seul son, il y en a 20 ou 30. Et c'est vraiment comme un chef d'orchestre à ce moment-là qui indique ce qu'on envoie, à quel moment, comment on le joue et tout. Ce qui est un peu le travail d'un chef d'orchestre. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ça faisait partie des musiques d'Hitchcock, moi, la deuxième partie de cette séquence, la première étant la musique de Ron Goodwin, que personnellement je trouve très belle.
Oui, enfin, ce qu'on vient d'entendre là est, à mon avis, totalement génial, dans le sens où c'est une véritable dialectique entre ce qui nous a manqué là, ce qui manque à l'auditeur, mais enfin, qu'il a pu reconstituer pour ceux qui ont vu le film. Et je crois même qu'on a pu se bâtir, si on ne l'a jamais vu...
Un imaginaire.
Avec l'imaginaire et l'imagination, qui est que... Tout concourt au même propos, c'est-à-dire tout va dans le même but, tout va dans le même sens, avec à chaque fois des rebondissements et avec une utilisation des bruits naturels et des bruits extérieurs. On a entendu Big Ben au début nous donner l'heure de façon un peu ironique. Tout à fait à la fin, quand le camion se gare, on est devant un pub où des effluves de musique commencent à sortir avec une musique populaire. Enfin, c'est... Si on tient compte du fait que le cinéma, c'est de l'image et du son, là, du son, on en a. Quel son? Je veux dire, tout le temps. Hein, il y a même une chose qui est humoristique sur laquelle Hitchcock n'a pas résisté, qui est que, si ma mémoire est bonne, lorsque le personnage, j'allais dire le héros, parce que le propre Hitchcock, dans une scène comme celle-là, on a quand même affaire à un horrible individu qui vient de tuer une femme dans des circonstances atroces. C'est pas la première, d'ailleurs. Qui a pour manie de se curer les dents d'une façon abominable avec son épingle à la cravate, et c'est justement parce qu'il a besoin de se curer les dents qu'il s'aperçoit que l'épingle à la cravate n'est plus là. Enfin, un personnage physiquement rouquin, tout à fait antipathique, mais que, par le génie d'Hitchcock, on a envie qu'il retrouve son épingle de cravate. Ça, c'est complètement fou. On se dit, mais bon, ce type-là est une crapule, et je suis là, moi, spectateur, à avoir envie qu'il la retrouve.
C'est le grand principe d'Hitchcock. Bon. Je veux dire, on devient assassin pendant l'assassin.
Toujours est-il que lorsque, enfin, il trouve le bon sac de pommes de terre et qu'il retrouve l'épingle à la cravate, cet épingle à la cravate est malencontreusement serré entre les doigts qui ont commencé la raideur cadavérique a eu lieu, et les doigts sont crispés autour de l'épingle de cravate. Et évidemment, le personnage déplie un à un les doigts, et par une pirouette et par un procédé humoristique, Hitchcock enchaîne avec le personnage de l'inspecteur de police, qui finira par démasquer le coupable, qui est en train de casser ses biscuits, vous savez, ces biscuits italiens qu'on vend dans les restaurants italiens. Ouais. Et donc, il y a tout un jeu de mots, et on se surprend à avoir nous-mêmes mal aux mains, parce que
Il y a également, ce qui est formidable dans cette séquence, c'est que les moments les plus hard, on dirait maintenant, de suspense, cherche et tout, sont contrebalancés par le camionneur qui sifflote tranquillement. Et bon, à chaque fois, il y a une espèce de jeu, je ne suis pas dupe, je m'amuse aussi et je vous amuse.
Personnellement, des deux grandes séquences qu'on a entendues, qui sont assez proches...
Les trois séquences sont faites sur fuite en voiture. Hein.
Ça, c'est ma préférée, je veux dire. Je préfère ça, y compris à la scène du bus du rideau déchiré, parce que c'est poussé à un point encore plus limite, c'est encore plus abstrait, ça s'écoute comme de la musique. Pendant que le micro était fermé tout à l'heure, vous me disiez qu'on avait un plaisir musical à écouter, c'est tout à fait vrai. Moi j'en aurais pu en écouter encore 10 minutes, et puis...
Oui, non, mais je crois que là c'est bon, Hitchcock, dans tout son travail depuis que Le Parlant existe, s'est toujours posé un problème, on l'a vu dans la première émission avec Jean Douché, c'est-à-dire le bruit. Et dans les trois extraits que j'ai choisis là, j'ai voulu justement montrer la... il sait avec qui il travaille, et il sait quand il travaille, et pourquoi. La séquence du bus commence par des bruits, de même qu'on se rappellera, pour ceux qui ont écouté les autres émissions de cette semaine, que je n'ai jamais mis la séquence de l'homme qui en savait trop.
La Storm Cloud
Cantata. Voilà, je ne l'ai jamais mis avec Toc Toc Toc, on commence à jouer, mais les bruits avant qu'il y a de gens qui rentrent dans la salle et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a les bruits au début du rideau déchiré, il y a les bruits au début de Frenzy, ce qu'on vient d'entendre, et c'est vrai que la séquence en question commence par une séquence un peu musicale, un peu tout, qu'il abandonne par une grosse sonnerie dans Topaz. C'est-à-dire que dès qu'un personnage chez Hitchcock est dans une voiture, fonctionne dans une voiture, dans une fuite, dans une course, la musique ou le son n'ont pas la même fonction selon l'histoire. C'est-à-dire que la musique est subjective dans le rideau déchiré, et cette espèce de tan, c'est comme une pulsation, et le temps qui passe, le temps auquel pensent les personnages qui sont enfermés dans ce bus, tous ou l'un ou l'autre, avec des variation de thème selon qui pense. Pour Topaz, bon, bah, il y a une espèce de situation de film d'espionnage lourde qu'il abandonne complètement avec, disons, les gens qui courent, les bruits, les cris et tout. Et pour Frenzy, eh bien, l'émotion du personnage existe dans son espèce de réalité avec cette musique qu'on met autour de lui, qui se casse par ces espèces de musiques tant, qui sont des plans très brefs, très rares chez Hitchcock, pour montrer qu'il se rappelle qu'il a perdu les bagues. Et là, c'est plus la peine. Là, c'est même plus le spectateur qui se fait la musique en regardant, c'est même plus le spectateur dans la tête, l'acteur dans la tête qui a la musique. C'est une musique qui vient en plus, mais qui est une musique réaliste, là, complètement, c'est du bruit. C'est-à-dire de dire, je ne fais au cinéma que de la musique ou que du bruit, c'est comme vous voulez. Bon, et là, on comprend peut-être qu'après l'expérience de Herman, qui est arrivé à une osmose fabuleuse, il a besoin de tout recasser pour chercher quelque chose. Et alors là, ce qui était intéressant, et je conclurai par là, c'est que je n'ai pas voulu qu'on commente la musique de Family Plot, Complot de famille, car c'était à mon avis son dernier film, celui qui, après lequel, ça a été son dernier film, mais celui avec qui il allait changer aussi. Il a pris John Williams, et tout le début du film, et fait création de la musique et des voix et tout, qui annonce une autre recherche qu'il allait faire, George Schneider. Et je crois que pour conclure la série, c'est le mieux, comme la carrière de Hitchcock s'est arrêtée, c'est d'arrêter avec cette chose ouverte, inachevée, un peu comme cela. Alors je vous propose, pour conclure cette série, que nous écoutions donc le début du film Family Plot, musique de John Williams. C'était Hitchcock et ses musiques, 5 émissions de Noël Sim Solo. Aujourd'hui, dernière émission, la Prairie avec Georges Schneider. Réalisation Laurent Macchietti, Dominique Caléo et Marianne Manès. Séquence de Family Plot, 4 minutes 5 de plaisir.
Someone is here. Not closely, not willingly. I feel a holding back. What's the trouble, Henry?
Too many memories, too much pain, too much sorrow.
Whoever is there with you, tell them to speak up, Henry. Tell them to come closer.
I think I know who it is, Madame Blanche. I think I know what's bothering her.
Her? That? Never you mind, Miss Rainbird. I won't have you doing Henry's work for him. Now, let's have it, my love. That's why we're here tonight. To help my friend be rid of a torment. She has a right to rest her weary head on a pillow each night and sleep the peaceful sleep of the angels.
How did you know about my troubled sleep? Who told you?
Her nights cannot go on like this much longer.
I never told a soul about my nightmares. How could you?
Who is this person who arrives in our presence tonight but does not dare to come close to us?
It's her. It's my sister Harriet. Must be.
She stays her distance, Julia Rainbird, for she does not fear your love or your kindness yet. That is selfishness where you are.
I've had all I can take from her. Night after night, coming into my dreams, whining, complaining, trying to make me feel guilty, though I need her to tell me right from wrong. Tell her I know what has to be done. I've been wanting to do it for a year. But it is I, Julia Rainbird, who has made the decision. I don't need her to goad me on by making me ill with her ugly words in my ugly dreams. Tell her to stop it, to go away and leave me alone. No. Don't let her go. Don't let her go away.
Harriet? Harriet, stay with us, Harriet. Your sister wants to speak to you now from the depths of her soul.
What's wrong? What is it?
She says, I've waited so long to hear from you, Julia. I've been so unhappy without you.
It is you, Harriet. Oh, I'm so sorry. I should never have made you do it. It's all past now, but I'll do what I can to make up for it. If he's still alive, I'll find your son, and I'll take him in my arms and love him as if I were you, my poor Harriet. And I'll make him one of us, and give him everything. Everything. Far away.
So far, far away.
But I need her. I need her help. I can't do it alone. See, I need her memory. It's over 40 years ago. I don't know where the child was taken or who it was given to. I don't know where he is now. Or who he is.
The true measure of Julia Rainbird's love lies in what she does now, with your help, of course, and mine. And that of the dear departed one who has drifted so far from us.
We understand him. Don't we, Miss Rainbird?
Oh, yes, yes, I do. I'm willing to do anything, anything at all.
In the end, there will be happiness. From the tears of the past, the desert of the heart will bloom. Goodbye, Julie Rainbird. Goodbye, Blanche.
Cette série de Fonia a été diffusée pour la première fois sur France Culture en février 1992.